Un journal présenté par Marie-Aimée Copleutre. Bonjour Marie-Aimée.
Bonjour Oumi, bonjour à toutes et à tous. Stupeur en Israël après la diffusion de 3 vidéos montrant des otages détenus depuis le 7 octobre. Vidéos choquantes qui déclenchent un tournant dans la crise des otages. Notre correspondant Michel Paul à Jérusalem nous explique. 40% des Français ne partent pas en vacances en ce premier week-end d'août de chassé-croisée. On tente de comprendre quels sont les obstacles des ménages. Explication avec Jeanne Serrin. Haro sur les fraudes sociales, la ministre du Travail Catherine Vautrin veut réduire les dépenses, notamment de santé, 13 milliards d'économies à prévoir. Elle donne les pistes envisagées par le gouvernement. Nous irons à la fin de ce journal à Rome, rencontrer le pape Léon XIV. Il vient de célébrer la messe de clôture du jubilé de l'Église catholique.
Israël consterné sous le choc ce matin.
Après la diffusion d'images diffusées par le Hamas des derniers otages détenus dans la bande de Gaza, ça s'est passé ces derniers jours. 3 vidéos ont été publiées par le groupe terroriste, montrant des otages décharnés. L'une d'elles, particulièrement terrible, montre un otage creusant sa propre tombe avec une pelle. Des vidéos qui ont fait réagir immédiatement en Israël, médias, familles des victimes et le gouvernement. Benjamin Netanyahou se dit consterné. Bonjour Michel Paul.
Et bonjour Marie-Aimée, bonjour à tous.
Cela déclenche d'ailleurs un ultimatum pour le retour des otages.
Oui, aujourd'hui encore, ces images des 2 otages émaciés sont diffusées en boucle par les médias avec un premier résultat. Donc, on peut parler d'un changement de la position israélienne. Un haut responsable israélien affirme que désormais, après l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations indirectes avec le Hamas, eh bien Israël exige la libération de tous les otages en un seul bloc et non plus en vagues successives comme jusqu'à présent. Ce qu'Israël propose donc, c'est en fait une sorte d'ultimatum adressé à l'organisation palestinienne, une négociation pour le retour des 50 otages détenus à Gaza, dont 22 sont toujours présumés vivants selon le décompte israélien. Et également le désarmement du Hamas. Pas de mention à ce stade, en tout cas, d'arrêt des combats dans l'enclave palestinienne. Au contraire même, peut-on dire, demain, le cabinet de sécurité israélien doit se réunir pour envisager un renforcement de l'offensive israélienne à Gaza, notamment dans des secteurs où pourraient se trouver les otages, une mesure réclamée par l'extrême droite, mais contestée par la hiérarchie militaire israélienne.
Michel Paul, RFI à Jérusalem pour France Culture. Des vidéos qui ont également fait réagir le ministre des Affaires étrangères en France, Jean-Noël Barrot, qui parle d'images ignobles. La chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, a également écrit sur le réseau social X « Images effroyables ». Dans la bande de Gaza, on compte 19 morts de plus aujourd'hui, tués dans les bombardements et tirs de l'armée israélienne, dont 9 qui attendaient de la nourriture près d'un centre de distribution. Un humanitaire du Croissant Rouge palestinien a été tué. La France, de son côté, annonce larguer des colis supplémentaires. Aujourd'hui, ce serait le troisième largage aérien français. Pour l'instant, 8 tonnes ont été livrées sur les 40 prévues par l'armée française. Pour rappel, selon l'ONU, il faut 62 000 tonnes d'aide par mois pour répondre à la famine des Gazaouis. Au Chili, le bilan revu à la hausse après l'effondrement d'une partie de la plus grande mine de cuivre du pays, El Teniente. Il n'y a donc plus un seul mort, mais 2. 4 mineurs sont toujours coincés sous terre à 900 mètres de profondeur. Sur place, les secouristes tentent de les sauver 24 heures après les faits. Ils prévoient de manifester ce dimanche dans 62 villes brésiliennes. Les soutiens de Jair Bolsonaro s'organisent et demandent l'amnistie de l'ex-président. Condamné mi-juillet par la Cour suprême du pays, il a été reconnu coupable d'avoir tenté un coup d'État lors de l'investiture de Lula da Silva, l'actuel président. Jair Bolsonaro ne sera pas présent aux manifestations. Il porte un bracelet électronique et ne peut quitter son domicile le week-end. Aux États-Unis, la manifestation anti-Trump n'a pas rassemblé hier, contrairement à ce qui était attendu. Les Américains ne sont pas descendus dans les rues. Les motifs de protestation étaient les attaques contre les droits des personnes trans, le démantèlement du programme Medicaid, du ministère de l'Éducation, des services météo, mais aussi le manque de transparence du président Donald Trump entourant l'affaire Epstein. Et puis c'est confirmé pour Jeanine Pirro, l'ancienne présentatrice de Fox News, une chaîne conservatrice américaine. Elle est nommée au poste de procureur de Washington. Le Sénat américain l'a annoncé hier. Jeanine Pirro, ancienne juge star de télé, avait été nommée par Donald Trump. Il y a ceux qui partent et puis ceux qui restent. En France, les vacances ne sont pas là pour tous, faute de budget, de temps ou tout simplement par des freins psychologiques. 4 Français sur 10 ne partent pas en vacances. C'est du moins le chiffre qui est ressorti en 2023, selon le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Quant aux enfants, 1 sur 3 est privé de cette pause estivale, alerte chaque année le Secours Populaire. Bonjour Jeanne Serrin.
Bonjour.
Alors comment peut-on expliquer ces chiffres ?
Eh bien tout d'abord parce que pour de nombreux Français, et notamment les plus précaires, les vacances ne sont pas perçues comme prioritaires. Dans un contexte économique tendu, c'est donc souvent le premier poste de départ sur lequel on rogne. C'est ce que détaille Jean Stellitano, il est secrétaire national du Secours Populaire.
Les arbitrages se font effectivement sur les loisirs, la culture, le cinéma et les vacances. C'est une dépense non contrainte. Et donc effectivement, la note d'électricité, on n'a pas le choix, le loyer, on n'a pas le choix. Remplir un frigo, on n'a pas le choix, parce que notre santé l'exige. Mais les loisirs, c'est un des rares leviers sur lequel les familles peuvent intervenir pour réduire les dépenses.
Ces périodes estivales, c'est aussi l'occasion pour beaucoup d'avoir du travail. Autre frein, la difficulté de se projeter, d'organiser des vacances quand son travail n'offre pas vraiment de perspective.
Les gens qui n'ont pas de problème particulier financier, souvent anticipent leur congé. Donc ils prennent leur billet de train 6 mois avant. Ceux qui vivent au jour le jour, qui ne savent pas comment ils vont boucler leur fin de mois, on comprend bien que de réserver des billets de train 4-5 mois à l'avance, c'est juste pas possible. Ça se décide à la dernière minute. Et comme ça coûte très cher, on réduit la durée, on réduit les distances pour pouvoir quand même partir.
Il existe enfin des freins psychologiques, estime Jean Stellitano, dans un contexte, dit-il, où les pouvoirs publics multiplient les discours culpabilisants vis-à-vis des personnes sans emploi.
Il y a du renoncement parce que on se dit ben je suis France Travail, ben je peux pas partir en vacances alors que c'est prévu, hein. C'est le regard des autres. Mon voisin, il sait que je suis au RSA, il me voit partir avec mes bagages, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et puis aussi se dire peut-être que je vais louper un contrat. C'est vraiment la conjonction de tous ces facteurs qui font qu'il y a un renoncement.
Un sentiment d'illégitimité et de frustration, car malgré ces freins, près d'un Français sur 9 reste convaincu que les vacances sont indispensables à leur bien-être et que ne pas partir peut avoir des conséquences importantes sur leur vie professionnelle et leur vie de famille.
Merci Jeanne Serrin. Lutter contre la fraude sociale, un des chevals de bataille du gouvernement de François Bayrou depuis plusieurs mois, maintes fois ressassé sans forcément de précision sur comment et qui cibler. Mais ce matin, on en apprend un peu plus par la voix de la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Catherine Vautrin, dans une interview au Parisien. Elle détaille les axes de ce projet de loi qui doit être présenté en automne. Luc Chemla.
Être plus efficace pour récupérer l'argent fraudé tout en renforçant les contrôles, tels sont les principaux objectifs d'après la ministre. Pour y arriver, Catherine Vautrin souhaite tout d'abord permettre aux caisses de sécurité sociale d'avoir accès à l'ensemble du patrimoine d'un bénéficiaire et donc d'avoir des informations sur ses propriétés, ses données bancaires ou assurance vie. L'idée, c'est de s'assurer qu'il n'a pas de revenus non déclarés. Autre mesure forte, en cas de fraude avérée sur les allocations chômage, le gouvernement veut permettre dans certains cas de récupérer l'argent indûment versé directement sur le compte bancaire du fraudeur. Interdire le versement de l'assurance chômage sur les comptes hors Union européenne est aussi une volonté de la ministre. Alors que le transport sanitaire coûte tous les ans 6,7 milliards d'euros à la sécurité sociale, ce projet de loi veut obliger les professionnels et notamment les taxis à se géolocaliser pour garantir que les kilomètres facturés ont bien été effectués. Enfin, pour les entreprises suspectées de pratiquer le travail dissimulé, le texte prévoit de bloquer leurs comptes bancaires le temps du contrôle. Le but, éviter qu'elles organisent leur insolvabilité.
Au total, l'objectif du gouvernement, c'est de faire 44 milliards d'économies sur l'ensemble des finances publiques. Sur la fraude sociale, il faudrait en faire 13 milliards, un montant qui est estimé comme préjudice des escroqueries à la sécurité sociale. Ces annonces n'ont pas tardé à faire réagir les médecins généralistes. Ils se disent réservés concernant les arrêts maladie, arrêts de travail. Les termes évoqués par François Bayrou, dérive, abus du système, sont également jugés abusifs par les syndicats de médecins. Il y a eu une augmentation de 6,4% des arrêts maladie cette année. Mais pour Johan Sénac, le vice-président du syndicat des médecins généralistes, MG France, c'est aussi car les conditions de travail sont difficiles.
Il ne faut absolument pas laisser entendre que cette fraude expliquerait l'augmentation importante des arrêts de travail, ni même que les médecins qui prescrivent, j'allais dire, ces arrêts de travail, en particulier de longue durée, seraient dans des pratiques frauduleuses, parce que ça n'est pas le cas. Et contrairement aux déclarations qui ont été faites la semaine précédente sur les arrêts de travail de longue durée, dont la moitié serait injustifiée, ce chiffre est absolument faux. Il a été très largement débunké, si je puis me permettre, et on a pu montrer que non, il n'y a pas plus de 50% des arrêts de travail de longue durée qui sont injustifiés, mais que ça reste très marginal.
Vous en venez justement aux arrêts de travail abusifs, injustifiés. Vous dites que c'est assez marginal, mais vous avez fait des propositions de votre côté pour lutter contre ces arrêts de travail qui sont parfois injustifiés.
Alors oui, moi j'en ai fait, mais l'assurance maladie en fait, elles sont pas reprises. Mais vous savez, il y a des entreprises ou des collectivités dans lesquelles en fait on sait qu'il y a plus d'arrêts de travail que d'autres, parce que les conditions de travail sont moins bonnes, parce que il n'y a pas eu un investissement dans le bien-être au travail, parce que certaines entreprises jouent pas forcément le jeu de la responsabilité sociale. Eh bien, on pourrait imaginer une forme de sinistralité dans les cotisations, comme ça peut se faire sur les accidents de travail, avec un système de bonus-malus. On récompense les entreprises qui jouent le jeu, et au contraire celles qui ne mettent pas en place des conditions de travail de qualité seraient d'une certaine manière pénalisées. Une proposition de l'assurance maladie, et ça on l'a fait nôtre, bien sûr.
Johan Sénac, vice-président du syndicat des médecins généralistes MG, au micro de nos confrères de France Info ce matin. L'affaire Gisèle Pellicot, elle résonne à Dijon après qu'une suspicion d'un cas de soumission chimique a été découvert hier. Un homme d'une soixantaine d'années a été mis en examen pour avoir alcoolisé son épouse et ensuite la soumettre sexuellement à d'autres hommes. Une enquête pour viol a été ouverte, indique le parquet de Dijon. L'homme encourt jusqu'à 20 ans de prison. Autre affaire de violence sexuelle, cette fois-ci à l'hôpital de Montreuil en Seine-Saint-Denis. Une infirmière de 26 ans a été placée en garde à vue pour des agressions sexuelles sur nourrissons. Les faits se seraient produits cette année. Ils auraient été filmés, diffusés sur les réseaux. C'est l'infirmière qui s'est déclarée à la police mercredi pour dénoncer ces agissements. Elle est suspendue. Elle n'aurait pas agi seule. Un homme de 28 ans a également été mis en cause, placé sous contrôle judiciaire. Lui aurait incité à filmer la scène. Des écrans géants, un orchestre harmonique d'une centaine de musiciens et puis des croix en bois peintes en rouge et or de plusieurs mètres. L'église catholique mise sur le spectacle pour la messe de clôture du jubilé qui a eu lieu ce matin en périphérie de Rome. Il faut dire qu'un million de jeunes pèlerins du monde entier étaient présents, recouvrant la vaste plaine de plusieurs hectares de Tor Vergata. Messe célébrée par le pape Léon XIV depuis sa nomination, c'est la première fois qu'il se retrouvait dans une foule aussi massive. Notre correspondant correspondant à Rome, Olivier Tosseri.
Léon XIV avait donné rendez-vous à la jeunesse et un million de pèlerins de 146 pays ont répondu à son appel. Une première rencontre, trois mois après son élection, qui a eu lieu sur une vaste esplanade d'une centaine d'hectares en périphérie de Rome. Le pape a été accueilli dans la liesse et la ferveur pour célébrer la messe de clôture de ce jubilé des jeunes. Dans son homélie, il a su accueillir les questions qui les tourmentent et leur offrir un message d'espérance exigeant.
Il y a une question brûlante dans nos cœurs, un besoin de vérité que nous ne pouvons pas ignorer, qui nous pousse à nous demander qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que le vrai sens de la vie, qu'est-ce qui peut nous libérer de la prison, de l'absence de sens, de l'ennui et de la médiocrité. La plénitude de notre vie ne dépend pas de ce que nous accumulons, de ce que nous possédons, mais de ce que nous savons accueillir et partager avec joie. Acheter, accumuler, consommer n'est pas suffisant. On a besoin de lever les yeux et regarder vers le ciel en faisant grandir en nous des sentiments de tendresse, de bonté, de pardon, de paix.
Des sentiments qui, selon le pape, sont indispensables aux jeunes dans leur quête existentielle. Aspirer à de grandes choses, rendre la société plus humaine et fraternelle, leur a-t-il demandé, avant de leur fixer un nouveau rendez-vous à Séoul en 2027 pour les Journées mondiales de la jeunesse.
Olivier Tosseri à Rome. Avant de refermer ce journal, un point sur la météo de ce dimanche après-midi nuageux, voilé sur la moitié nord, plus lumineux avec du soleil. Dans le sud, les températures 22 à Lille, 24 à Tours, 21 à Strasbourg, 28 à Toulouse. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec Alix Forgeot à la technique, Ruben Carmesine.